Une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Qui devons-nous blâmer pour les souffrances et la mort de Jésus-Christ à la croix? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse entièrement satisfaisante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a des questions vraiment intéressantes aujourd'hui. Ça ne me surprendrait pas qu'elles soient aussi vos questions. Les voici. Est-ce que Dieu est satisfait du paiement que Christ a fait pour nos péchés? Est-ce que ce paiement est complet? Est-ce que Christ était le sacrifice parfait pour nos péchés? Est-ce que la mort de Christ nous a ouvert le chemin au trône de Dieu? Du temps de Moïse, à quoi servait l'imposition des mains sur la tête de l'Holocauste et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Est-ce vrai que nous nous identifions à Christ par le baptême? Est-ce que ce sont nos péchés qui ont fait mourir Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut servir Dieu sans le laisser purifier notre vie? Et maintenant, voici une question pour toi, mon ami. Est-ce que le sacrifice de Christ t'a lavé de tes péchés? La parole de Dieu va mettre la lumière sur toutes ces questions dans quelques instants. Le pasteur Jean Joly est prêt à nous enseigner, sa Bible est ouverte et Dieu a des trésors à nous communiquer aujourd'hui. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on veut saisir tous les trésors que tu as pour nous aujourd'hui. Parle à nos cœurs, ouvre-les et fais pénétrer toute cette richesse dans notre vie pour qu'on puisse mieux te connaître et devenir des vrais adorateurs pour toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui nous reprenons notre étude du livre du Lévitique au 3e verset du 1er chapitre. Ce livre est un livre clé de la Bible. Nous serions débarrassés de toutes les sectes si nous connaissions vraiment ce livre. Il est rempli de nombreuses vérités spirituelles au sujet de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Le livre débute avec 5 sacrifices qui illustrent différents aspects de Christ. Les 3 premiers sacrifices sont des sacrifices d'odeur agréable. Ils nous enseignent au sujet de la personne de Christ. Ils expliquent qui il est. Ensuite, nous avons 2 sacrifices d'odeur non agréable qui annoncent l'œuvre de Christ. Maintenant, nous allons poursuivre notre étude de l'Holocauste débutée à la dernière émission. Nous avons déjà vu que c'est le sacrifice le plus ancien connu de l'homme. C'est l'offrande qu'Abel a apportée à Dieu. Noé et Abraham ont aussi offert des holocaustes à Dieu. C'était l'offrande faite depuis le début jusqu'au livre du Lévitique. Ceux qui désiraient s'approcher de Dieu faisaient un tel sacrifice. Nous avons vu que si quelqu'un désirait offrir un holocauste, il devait apporter un taureau. Le sacrifice devait être un animal domestique qui obéit à l'homme. Le Seigneur Jésus a obéi à son Père lorsqu'il est venu parmi nous. Maintenant, débutons notre lecture. Lévitique, chapitre 1er, verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Le mot hébreu « holo » qui est utilisé pour l'holocauste signifie « ce qui s'élève ». Ce n'est pas un manque de respect que d'affirmer que l'holocauste s'envolait en fumée. Il était entièrement brûlé sur l'autel et il n'en restait que des cendres. Ceci nous montre que l'Holocauste est ce que Dieu voit en Jésus-Christ. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2, il affirme que Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ici, dans ce premier chapitre du Lévitique, au verset 9, 13 et 17, nous voyons que l'Holocauste est d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ce que Dieu voit en Jésus-Christ. Ce n'est peut-être pas ce que nous voyons. C'est ce que Dieu voit en lui, et c'est ce qui compte avant tout. Dieu dit qu'il est satisfait de ce que Christ a fait pour vos péchés ainsi que les miens. Dieu est satisfait du paiement complet que Christ a fait pour vos péchés, et il peut vous sauver si vous mettez votre confiance en lui. La question est, êtes-vous satisfait de cela? Notez que le sacrifice doit être un animal mâle, ce qui parle de sa force. Ceci nous dit que Christ est plus que suffisamment puissant pour nous sauver et qu'il peut sauver une personne parfaitement. De plus, l'animal devait être sans défaut et sans tache, ce qui représentait la perfection de Jésus-Christ. Et il n'y a point en lui de péché, ce que nous rapportent les Saintes Écritures au sujet de Jésus. Pour obtenir sa faveur, nous dit le texte, le pécheur pouvait approcher Dieu à cause du sacrifice d'un petit animal qui couvre ses péchés. L'animal n'était pas offert vivant, mais par une mise à mort. Cela était absolument nécessaire. Ce n'est pas la vie sans péché de Jésus, ni mon approbation de Jésus qui me sauve. Seulement sa mort pouvait sauver des pécheurs. Dans les Évangiles, nous apprenons que lorsque Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas. Sa mort nous a ouvert le chemin au trône de Dieu. C'est sa mort qui sauve les pécheurs. Le voile représentait le corps de Christ, sa chair. Sa vie parfaite nous fermait le chemin à Dieu. Ce que Dieu désire, c'est une vie parfaite comme celle de son Fils. Mais malheureusement, vous et moi ne pouvons pas offrir cela à Dieu. Seul Jésus a pu l'offrir. La vie de Christ est la norme acceptée par Dieu. Dieu pouvait dire de Christ, et seulement de celui-ci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Rapporté par l'évangéliste Matthieu, chapitre 3, verset 17. Vous et moi n'allons même pas à la cheville de Christ. La vie de Christ ne peut pas nous sauver. Elle nous sépare de Dieu, tout comme le voile du temple fermait l'accès au lieu très saint où se trouvait Dieu. Donc, il nous faut un autre chemin pour venir à Dieu. Ce chemin, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, donc sa mort. C'est ce qui a déchiré le voile du temple. Lorsque nous venons à Dieu par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, alors le chemin au trône nous est ouvert. C'est la mort de Christ qui sauve les pécheurs. Cette offrande était apportée volontairement. Vous n'avez pas à venir à Christ. Mais si vous désirez être sauvé, il est absolument nécessaire que vous le fassiez. Dieu ne propose pas d'autre moyen de salut. Le Seigneur Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » L'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 6. Vous pouvez peut-être penser que je suis dogmatique et très étroit dans ma pensée. Je vous l'accorde. Mais c'est cela qui va vous conduire à Dieu. Vous n'avez pas à venir à Dieu. Personne ne vous y force. C'est là votre libre arbitre. Par contre, si vous désirez venir à Dieu, il faut passer par le seul chemin que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sur la base de notre justice personnelle. Dieu n'accepte pas notre justice ternie par le péché. Il la refuse. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. L'Épître de Paul à Tite, chapitre 3, verset 5. Les Israélites devaient apporter leur sacrifice à l'entrée du tabernacle. Ils ne pouvaient pas offrir de sacrifice ou quoi que ce soit d'autre. Dieu voulait ainsi protéger Israël de l'idolâtrie. En effet, le peuple retombait facilement dans l'idolâtrie, et il l'a fait à plusieurs reprises au cours de son histoire. C'est pour cela qu'il fut éventuellement amené en captivité à Babylone. Donc, cet élément de la loi nous enseigne de ne pas présumer que nous pouvons venir à Dieu selon nos termes. C'est Dieu qui décide comment nous devons nous approcher de lui, pas nous. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Dieu n'acceptera jamais notre justice. Plusieurs pensent que la justice de Dieu est comme la justice de l'homme, mais porté à un degré plus élevé. Mais il n'en est rien. La justice de Dieu est entièrement pure et sainte. La seule justice que Dieu acceptera, c'est sa justice que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas la mériter par nos œuvres, ni l'acheter. Dieu ne peut absolument pas accepter notre justice misérable. L'offrande doit se faire à l'entrée du tabernacle. Mes amis, nous pouvons nous approcher de Dieu seulement selon ses termes. Le Seigneur Jésus a dit, et je le répète, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Poursuivons notre lecture du livre du Lévitique, chapitre 1, verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. L'imposition des mains servait à désigner un animal ou une personne. Nous voyons cela dans Lévitique, chapitre 24, verset 14, où les témoins posèrent les mains sur un blasphémateur condamné à la lapidation avant qu'on l'exécute. Moïse a aussi posé les mains sur Josué, indiquant par là qu'il serait son successeur. Voici une citation tirée d'un livre du docteur Kellogg sur ce sujet. Il traite de l'imposition des mains sur la tête d'un animal, et il affirme « Conformément aux provisions miséricordieuses de Dieu, le geste symbolise un transfert d'une obligation du coupable de souffrir pour ses péchés à une victime innocente. La victime était substituée au coupable et elle était punie à sa place. Autrement dit, lorsqu'un homme entrait et posait ses mains sur l'animal qui était sur le point d'être sacrifié, il désignait cet animal comme son remplaçant. Cet homme reconnaissait qu'il méritait la mort. Mes amis, lorsque vous acceptez Christ comme sauveur, vous admettez que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous désirez vous détourner de vos péchés et vous virez vers votre sauveur afin de vivre pour lui. Le petit animal mourait à la place du pécheur. C'est ce que Christ a fait pour nous. Lorsque vous acceptez Christ, vous posez les mains sur lui, c'est-à-dire vous le désignez comme votre sauveur. Aujourd'hui, bien des personnes pensent qu'il y a un certain mérite dans l'imposition des mains. Elles pensent qu'il y a un transfert de puissance. La seule chose que vous pouvez transférer par l'imposition des mains, ce sont des microbes. Cependant, ce geste désigne la personne qui prend votre place. Lorsque les pasteurs ou les anciens imposent les mains à un missionnaire, comme ce fut fait pour Paul et Barnabas à Antioche, nous désignons une personne qui ira à notre place, comme notre représentant. Christ a pris notre place. C'est ce que signifie 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il l'a fait devenir péché pour nous. Et l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses. Le terme hébreu signifie poser les mains de manière à s'appuyer fortement sur un autre. Ta fureur s'appesantit sur moi. Le psaume 88, verset 8. Cette partie de la cérémonie nous enseigne au sujet de l'expiation et de l'acceptation à cause de la mort de la victime, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Nous avons déjà dit que l'expiation couvrait le péché, mais ne l'ôtait pas. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 4. Seul l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, peut ôter les péchés. Ce sacrifice se faisait publiquement. La personne apportait l'animal au tabernacle. Elle se plaçait à côté de l'autel et là, elle tuait l'animal. C'était une cérémonie publique. Un pécheur doit confesser Christ publiquement, par la foi. Nous posons nos mains sur Christ, mais le public doit savoir que nous le faisons. Je pense que c'est la signification fondamentale du baptême aujourd'hui. Par le baptême, nous nous identifions à Christ. Publiquement, nous nous identifions à Christ, sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi le baptême d'eau était très important dans la jeune Église. Verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Maintenant, nous abordons l'aspect rituel de l'Holocauste. Un sacrifice acceptable a été choisi. Le pécheur apporte la victime à l'entrée du tabernacle où un prêtre vient à sa rencontre. Le pécheur lui-même tue la victime. Cependant, il y a une exception au verset 14 et 15. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ici, une victime innocente meurt à la place du coupable. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 3, verset 18, nous dit « Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. » Nos péchés ont mis Jésus-Christ à mort. C'est très personnel. Mon péché est responsable de la mort de Christ. Ton péché est responsable de la mort de Christ. Cela m'agace quand j'entends des gens discuter au sujet de qui est responsable de la mort de Christ. Ils blâment soit l'élite religieuse, soit la nation d'Israël, soit l'Empire romain. Mes amis, nous pouvons discuter tant que nous voulons, mais le fait demeure que si je n'avais pas été un pécheur et que si vous n'aviez pas été un pécheur, personne n'aurait crucifié Jésus-Christ. C'est notre péché qu'il a porté à la croix. Chaque victime était étranglée. Le pécheur ou le prêtre, agissant au nom de la nation, tuait la victime. Aujourd'hui, seul le sang de Christ peut nous laver de tout péché. Après l'exécution de la victime, le prêtre aspergeait le sang autour de l'autel. Le sang représentait la vie, et son aspersion était une façon de le présenter à Dieu. Versets 6 à 9. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tout devait être fait avec méthode et ordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. La victime était taillée en pièces afin que sa chair soit exposée et brûlée plus facilement. La vie intérieure de Jésus est examinée depuis plus de 2000 ans. La vie de Jésus fut examinée plus que celle de toute autre personne. Il y a davantage de divergences d'opinion à son sujet qu'au sujet de quiconque d'autre. Ceci était vrai lorsqu'il était sur terre, et cela l'est encore aujourd'hui. Jésus nous pose toujours la question : qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? On nous propose bien des réponses aujourd'hui, et certaines sont blasphématoires. Cependant, Jésus est toujours saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, comme nous le rapporte l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 26. Jésus-Christ a été examiné pendant toutes ces années, et c'est toujours lui qui est sans défaut et sans tache. Versets 10 à 13. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Encore une fois, nous remarquons que l'animal est taillé en pièces et entièrement exposé. Du feu était utilisé pour brûler la victime. Le feu ne représente pas nécessairement l'enfer, la vengeance et la colère. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui donnent de l'importance à cela. Le feu ne représentait pas l'enfer au buisson ardent. Le feu représente souvent la puissance purificatrice de Dieu. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Malachie, chapitre 3, verset 3. Poursuivons notre lecture, versets 14 à 17. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel, et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Prochaine émission, Lévitique 2.
Oh, merci beaucoup, Régent. Je me rappelle quand j'étais toute petite, notre famille avait des amis qui étaient juifs, et on les aimait beaucoup. C'était des gens très généreux et très respectueux envers les autres. Mais je me souviens d'avoir entendu des compagnes de classe dire que c'était les Juifs qui avaient mis Jésus à mort. Ça me blessait profondément d'entendre ça. Parce que même si je n'avais pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu à cette époque-là, je ne pouvais pas et je ne voulais pas croire que c'était vrai. Et aujourd'hui, eh bien, Régent nous a enseigné que ce sont nos péchés qui ont mis Jésus à mort. Ça, je le crois. Mon péché est responsable de la mort de Christ. Mon ami, ton péché est responsable de la mort de Christ. Les Juifs et les Romains ne sont pas plus responsables de sa mort que nous. Si on n'avait jamais péché, Jésus n'aurait jamais été crucifié. Il a porté nos péchés sur la croix. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci de t'être livré toi-même aux mains des pécheurs pour payer la dette de mon péché. Merci de m'avoir entièrement pardonné tous mes péchés quand je t'ai reçu comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Ça me rappelle les paroles d'un chant que j'ai composé. J'aimerais juste te citer les paroles. Ça va comme ceci. Il s'adresse à Jésus. Quand je pense que tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta créature, et quand je pense que le Créateur de l'univers est descendu pour moi sur cette terre, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Et quand je pense que tu y as laissé ta peau afin de m'offrir le plus beau cadeau, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Je te vois sur la croix, ton visage ensanglanté, tes mains et tes pieds percés, et ton regard me trouble, il est plein d'amour pour moi, plein d'amour. Et quand je pense que j'ai toute une éternité pour te dire, ô Jésus, je t'aime, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Et je t'aime tendrement, doux Jésus, je t'aime. Est-ce que tu es l'objet de l'amour de Jésus, mon ami? As-tu reçu le salut qu'il donne gratuitement, le salut pour lequel il a payé si cher? C'est pour toi qui s'est laissé flageller. C'est pour toi qui s'est laissé cracher au visage. C'est pour toi qui s'est laissé injurier. C'est pour toi qui s'est laissé enfoncer cette couronne d'épines. C'est pour toi qu'il a laissé les hommes donner des coups sur sa tête. Et c'est pour toi qu'il s'est laissé crucifier sur cette croix. C'est pour toi.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine à tous.
Et à lundi.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.